Bonjour à tous. Après avoir parlé des pathologies de la représentation et des pathologies de la souveraineté, nous allons, dans le cours qui vient, nous tourner vers les pathologies de la légitimité. Quod omnes tangit, ad omnibus approbari debet. Ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tous. Cette célèbre formule médiévale, qui d'ailleurs sera très souvent répétée pendant la Révolution française, appelle à fonder la légitimité d'un pouvoir sur le consentement de ceux qui y sont soumis. Et cette célèbre formule a pris son plein effet dans le monde démocratique. Et ce, d'une double façon. En érigeant d'abord ce consentement en principe instituteur d'un pouvoir, et pas seulement, comme c'était le cas très souvent précédemment, sous la forme d'une validation d'un pouvoir qui aurait eu son origine propre. En second lieu, en se faisant ensuite plus précise, les règles de ce consentement devenant formalisées sous les espèces d'un vote. Cette technique du consentement a marqué une rupture avec des appréhensions antérieures beaucoup plus floues de l'approbation populaire. Ça pouvait être simplement une conception négative, minimaliste, l'absence de rébellion. Même Jean-Jacques Rousseau fait référence à cette conception du consentement. Ou ce qu'on a appelé, l'idée est encore présente chez Locke, un consentement tacite. Ou encore un cérémonial symbolique destiné à marquer la qualité de serviteur du pouvoir. Pensons aux célèbres fresques de Lorenzotti dans le palais municipal de Sienne, ou encore des rassemblements festifs. Le problème est que cette technique de légitimation a été structurellement liée à une nouvelle représentation de la société comme communauté d'individus. L'approbation y a donc nécessairement pris la forme arithmétique de voix qui se comptaient pour s'additionner, avec la conséquence majeure que cela entraînait, la constitution fonctionnelle d'un écart entre un mode d'expression reflétant mécaniquement la diversité des opinions ou des jugements, et qu'il est sollicité même cette diversité d'une certaine façon, et l'impératif d'un consentement de tous, d'une volonté générale, renvoyant toujours à une visée d'unanimité qui ne faisait facilement sens que dans une société de corps, c'est là le problème, ou avec des modes d'expression qui étaient ceux d'une foule s'exprimant en masse. Comment, en d'autres termes, se référer à un principe justificateur d'unanimité quand l'addition arithmétique des voix individuelles ne dégage plus que des majorités. Comment encore faire en sorte que soit alors respecté l'impératif d'égalité qui implique qu'aucun individu ne soit en position de dominer autrui, qu'aucun individu ne soit en position d'avoir une voix qui compte in fine davantage que celle des autres. On ne peut fonder une véritable légitimité démocratique sans répondre à ces questions. La première réponse historiquement donnée pour résoudre cette aporie a été de recourir à une fiction, de considérer que l'on faisait comme si la volonté générale était exprimée par la majorité, de considérer que l'on faisait comme si le peuple au singulier avait tranché quand les bulletins pour étaient plus nombreux que les bulletins contre. Sieyès a été le premier à formuler la nécessité pratique de cet appel à la fiction dans la démocratie et à la justifier. Fiction qui, je le rappelle, en droit, est une manière de contrer la réalité. Suivons son raisonnement. Une association politique, rappelait Sieyès dans le préliminaire de la Constitution française, est l'ouvrage de la volonté unanime des associés, vision rousseauiste classique. Mais il ajoutait immédiatement: on sent bien que l'unanimité étant une chose très difficile à obtenir dans une collection d'hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossible dans une société de plusieurs millions d'individus, et qu'il faut donc se contenter de la pluralité. Cette assimilation de la majorité à l'unanimité était légitimée d'une double façon à ses yeux. D'abord, car il était alors possible de parler d'unanimité médiate, les membres de la société ayant reconnu immédiatement la nécessité de cette assimilation. Les membres de la société étaient unanimes pour faire du principe de majorité leur règle. Mais surtout, en second lieu, parce qu'il fallait se résoudre, je le cite, à reconnaître tous les caractères de la volonté commune dans une pluralité convenue. La majorité, pour ces deux raisons, une raison que l'on peut dire procédurale et une raison plus substantielle, avait donc raison de valoir pour l'unanimité. Et Condorcet, qui l'on sait s'est beaucoup intéressé à ces questions d'addition des opinions, a repris plus tard à son compte l'argument. Voilà ce qu'il disait. Au moment où les hommes ont senti le besoin de vivre sous des règles communes et en ont eu la volonté, ils ont vu que ces règles ne pouvaient être pratiquement l'expression d'une volonté unanime. Il fallait donc que tous consentissent à céder au vœu de la pluralité et la convention d'adopter ce vœu comme s'il était conforme à la volonté, aux lumières de chacun, a dû être la première des lois sociales, a pu seule donner à toutes les autres le sceau de l'unanimité. Donc on voit que Condorcet renforce en quelque sorte l'explication procédurale de Sieyès, disant qu'il n'y a pas de société si le premier vœu unanime des associés ne concerne pas un mode d'organisation qui se défait pratiquement, mais sous les espèces d'une fiction, de cette unanimité. À côté de ces explications de Sieyès et de Condorcet, il faut bien considérer que la philosophie utilitariste a, de son côté, apporté de puissantes justifications, beaucoup plus pratiques, à l'adoption du principe majoritaire. Le simple fait de sa supériorité relative. Ouvrons le Code constitutionnel de Bentham. Voilà ce qu'il dit. Le concours de tous dans la désignation effective de l'individu qui devra posséder telle ou telle part de pouvoir actif n'étant pas possible, à chaque fois que le suffrage d'une partie des électeurs se porte sur une personne, tandis que les suffrages d'une autre partie se portent sur une autre, le résultat le plus désirable, qui s'accorde le mieux avec le plus grand bonheur du plus grand nombre, est que le pouvoir soit exercé par le plus grand nombre plutôt que par la totalité. Tel est le résultat le plus désirable, tel est en conséquence le résultat réel. C'était donc une justification tout à fait pragmatique. Et s'il faut reconnaître les limites théoriques du principe majoritaire, ce dernier, pour Bentham, avait un caractère incontournable, car il fait bien adopter la solution qui correspond au plus grand nombre. Et il s'accorde avec une vision très réaliste de la vie sociale, dans laquelle le plus grand nombre finit pratiquement toujours par imposer ses vues et ses intérêts au petit nombre. Et cela, contrairement à la vision des libéraux constitutionnels. Les libéraux constitutionnels étaient soucieux des droits de l'homme quelconques. Ils redoutaient la tyrannie de la majorité, alors que les benthamites n'ont pas de difficulté à reconnaître le fait d'une société divisée et même du conflit de classe. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que l'une des grandes figures du mouvement sera Francis Place, qui sera le rédacteur de la Charte du peuple. Ces deux approches du fait majoritaire convergent en tout cas pour l'appréhender sous les espèces d'une majorité simple à 51%. Pourquoi ? Pour les utilitaires, elle exprime la loi quantitative la plus simple du plus grand nombre. Pour les autres, elle est la définition qui divise le moins, car elle est celle qui rend le plus facile l'accès à la position majoritaire, et qui maximise donc les positions de tous d'accéder à cette position majoritaire. Elle tend aussi à égaliser les positions, car elle minimise la distance entre le vainqueur et le vaincu. L'adoption d'une majorité dite qualifiée, des deux tiers ou des trois quarts par exemple, maximise à l'inverse fortement le poids de la minorité et favorise donc l'attitude conservatrice du refus du changement. Les majorités qualifiées introduisent une dissymétrie entre les positions et n'ont donc de sens que si l'objectif poursuivi est celui d'un vote de type prudentiel. Cette question a été fortement débattue en juillet 1789 à l'Assemblée constituante. Lorsque l'Assemblée constituante a mis en place son règlement, elle a réfléchi sur les conditions de majorité qu'il était nécessaire d'adopter. Et c'est le raisonnement de Mirabeau qui plaidait pour la majorité simple à 51% qui l'a emporté en procédant au raisonnement que je viens précédemment de résumer. Le problème, à partir de là, est double. Il est d'abord que l'adoption du fait majoritaire présuppose que celui-ci a une consistance sociologique, qu'il désigne d'une certaine façon une population déterminée avec ses intérêts et ses opinions. Les libéraux classiques n'ont pas abordé cette question. Ils se sont bornés à poser celle des rapports de l'individu à cette majorité et des conditions de sa protection et de la garantie de son autonomie. C'est l'approche de John Stuart Mill lorsqu'il appelait l'attention sur le fait, je le cite, que le peuple qui exerce le pouvoir n'est pas toujours le même peuple que celui sur qui on l'exerce. Et le gouvernement de soi-même, dont on parle dans le monde moderne, n'est pas le gouvernement de chacun par lui-même, mais de chacun par tout le reste. Et donc, voilà une nécessité prudentielle qui s'impose dans ces conditions. C'est encore celle que Tocqueville met en avant quand il envisage les conditions dans lesquelles il est possible, c'est un chapitre célèbre de la démocratie en Amérique sur la tyrannie de la majorité, les conditions dans lesquelles il est possible et nécessaire, je le cite, de faire appel de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain. Le premier à avoir abordé la question de la pertinence sociologique de la notion de majorité est Benjamin Constant, dans ses Principes de politique. Il vaut la peine de le citer sur ce point. La plupart des écrivains politiques, écrit Constant, sont tombés dans une erreur bizarre en parlant des droits de la majorité. Ils l'ont représenté comme un être réel, cette majorité, dont l'existence se prolonge et qui est toujours composée des mêmes parties. Mais, dit Constant, il arrive sans cesse qu'une partie de la majorité d'hier forme la minorité d'aujourd'hui. En défendant les droits de la minorité, poursuit-il, l'on défend donc les droits de tous, car chacun à son tour se retrouve un jour ou l'autre en minorité. L'association entière se divise donc en une foule de minorités que l'on opprime successivement. Chacune d'entre elles, isolée pour être victime, redevient, par une étrange métamorphose, partie de ce qu'on appelle le grand tout, pour servir de prétexte au sacrifice d'une autre minorité. Et Constant conclut avec cette phrase célèbre, « Accorder à la majorité une autorité illimitée, c'est offrir au peuple en masse l'holocauste du peuple en détail. » Et l'injustice et le malheur, poursuit-il, font le tour de l'association en s'appesantissant au nom de tous sur chacun isolément, et tous, à la fin de cette rotation déplorable, se trouvent à avoir perdu sans retour comme individu beaucoup plus qu'ils n'avaient gagné passagèrement comme associé. Constant reprendra dans de nombreux écrits, en la modifiant un peu, cette formule. Dans De l'esprit de la conquête et de l'usurpation, il dira que le risque du principe de majorité, c'est d'immoler, je le cite, à l'être abstrait les êtres réels et d'offrir au peuple en masse l'holocauste du peuple en détail. C'est une autre formulation de celle que je viens de donner. Ces remarques qui étaient faites à l'aube du XIXe siècle ont pris un relief encore plus accentué aujourd'hui. La notion de majorité est en effet plus que jamais problématique en termes sociologiques. Tant les positions des hommes et des femmes s'individualisent et conduisent à décliner dans de multiples dimensions cette notion de majorité et donc tout simplement à la déconstruire. L'intérêt du plus grand nombre ne peut donc moins que jamais être caractérisé sur un mode univoque et constant. Le peuple, en conséquence, ne s'appréhende plus comme une masse homogène, il s'éprouve plutôt comme une succession d'histoires singulières, une addition de situations spécifiques. C'est pourquoi les sociétés contemporaines se comprennent de plus en plus à partir de la notion de minorité. La minorité n'est plus la petite part qui devrait s'incliner devant la grande part. La minorité est devenue l'une des multiples expressions diffractées de la totalité sociale. Et la société se manifeste désormais sous les espèces d'une vaste déclinaison des conditions minoritaires. Peuple, pourrait-on dire, est désormais aussi le pluriel de minorité. Le caractère de fiction de la généralité sociale, attaché à cette notion de majorité, reste en tout état de cause essentiel dans la considération de la question de la production de la légitimité. Le problème est là que cette dimension est rarement prise en compte avec tout ce qu'elle implique, ou, lorsqu'elle l'est, sans que soit clairement établi s'il s'agit d'une fiction juridique nécessaire, au sens fort du terme, et donc dont il faudrait tirer toutes les conséquences en matière de rapport entre droit et politique, autant que sur le plan institutionnel, ou si cette fiction est une approximation substantielle suffisante. C'est dans ce cadre qu'il faut appréhender les pathologies de la légitimité. Elles peuvent essentiellement prendre deux formes. D'abord, en premier lieu, la résurrection ou la manipulation d'une culture sociale de l'unanimité qui permet alors d'envisager une résolution essentialiste du caractère fictionnel des majorités. Ce sera la pathologie de la légitimité propre au régime totalitaire. Ou, seconde pathologie, le contournement et ou la négation de la fiction de différentes façons, sur un mode relatif, en hiérarchisant les légitimités et en mettant en avant un pouvoir doté d'une super-légitimité, ou sur un mode absolu, en rendant plus étroite la notion même de légitimité. Ce sont là les deux formes de pathologie propres aux démocraties publicitaires, plébiscitaires. Donc, d'un côté, on a une pathologie qui est fondée sur la reconsidération du sujet politique, et de l'autre côté, une pathologie qui est fondée sur une redéfinition de la notion même de légitimité. Commençons avec la persistance ou l'entretien d'une culture de l'unanimité et ses formes d'exacerbation pour expliquer une manière de résoudre, une manière de façon pathologique, on le verra, de résoudre la question de la légitimité. Dans le monde antique, la réalisation d'une société unie et pacifiée définissait l'idéal politique. Homonoia, la déesse de la concorde, a ainsi été célébrée dans les cités grecques, et les temples à Concordia ont été édifiés dans le monde latin. Participer dans ces différents univers anciens, c'était d'abord s'affirmer membre d'une communauté, c'était manifester une appartenance, d'où le rôle centrale jouée par l'acclamation populaire à Rome. Elle exprimait, cette acclamation, l'idéal de consensus qui devait régner dans les cités comme dans l'Empire. Elle suggérait aussi que le vrai sujet politique, c'était le peuple en masse. Et c'est pour cela que des rituels d'unanimité équivalents étaient régulièrement entretenus dans les cités. La littérature est énorme sur ce sujet. De tels rituels d'unanimité, on les retrouvera aussi dans d'autres mondes. Tacite et César ont montré l'importance qu'elles avaient dans les mondes germains et gaulois, et l'un et l'autre
dans De Germania ou dans la guerre des Gaules, on décrit ces assemblées d'hommes en armes qui exprimaient leur approbation à une proposition de leur chef en agitant bruyamment leurs javelots ou en rejetant à l'inverse, par des murmures, un avis qui avait déplu. Là aussi, c'est la foule en tant que telle qui consentait. Il n'a jamais été question, dans ces univers anciens, de compter des voix. L'Assemblée populaire n'était dans ce cas qu'une façon de tester, de réaffirmer ou de célébrer la cohésion du groupe et de célébrer également la fusion entre un chef et la population. C'était la même chose dans l'Église catholique primitive. L'élection des titulaires des différentes fonctions n'était réglée par aucune procédure précise. L'accent était surtout mis sur la manifestation d'un rapport de confiance des communautés vis-à-vis de ceux qui les conduisaient. Rien n'était alors significativement prévu pour s'exprimer soit un refus, soit des réserves. Cette culture politique de l'unanimité était ensuite restée très profondément ancrée dans les esprits. On la retrouvait partout, que ce soit dans les communes italiennes du Moyen Âge en Europe, dans les pays musulmans avec l'insistance mise sur l'igma, c'est-à-dire l'accord unanime de la communauté comme fondement des statuts légaux, en Afrique avec la culture de la palabre, ou dans le monde chinois avec la référence confucéenne à l'harmonie. On peut d'ailleurs signaler qu'aujourd'hui, de très nombreux débats sur le retour du confucianisme en Chine se sont justement polarisés sur cette question de la légitimité et sur l'idée qu'une véritable légitimité reposait sur l'accord des trois éléments que sont le ciel, la terre et l'homme. Il y a eu de nombreux textes publiés récemment en Chine, notamment un ouvrage célèbre de Jianqing sur ce sujet. Dans tous ces univers, la notion d'unanimité n'avait aucune signification arithmétique. Elle ne désignait donc pas ce qui résultait d'un dénombrement. Elle renvoyait essentiellement à une qualité sociale. L'unanimité définissait l'état d'une communauté, son intégration. Elle caractérisait sa constitution, son enracinement dans la durée. Et cette dimension a partout dessiné ce qu'on pourrait appeler l'horizon implicite des premières appréhensions de la participation populaire à l'expression de la vie collective comme l'horizon de la légitimité politique. Participer à la vie de la cité, à l'origine, n'a ainsi jamais voulu dire prendre parti, manifester son opinion, afficher ses préférences pour un clan ou une faction. C'est même au contraire contre une telle vision que nous qualifierions aujourd'hui de individualiste pluraliste que s'est d'abord affirmé l'idéal civique d'inclusion et de participation, ainsi que la conception d'un pouvoir légitime. Dans tous ces univers, sauf dans les cas de théocratie, la vision unanimiste du consentement politique se nourrissait de la superposition d'une représentation de type communautaire de la cité et d'une absence de procédure destinée à prendre précisément la mesure du soutien accordé au pouvoir. Comme si, en fait, l'impératif moral de la concorde et l'impératif moral du gouvernement de l'intérêt général se superimposaient en permanence aux considérations institutionnelles. N'oublions pas que Locke lui-même continuait en grande partie à s'inscrire dans cet ancien monde. La distinction du consentement tacite et du consentement explicite restant chez lui fort imprécise, comme si, d'une certaine façon, elle ne revêtait cette question qu'une importance secondaire à ses yeux. La moralité du consentement et la procéduralité du consentement étant supposées s'équivaloir. L'entrée dans des sociétés d'individus qu'appelaient de leurs vœux et symbolisaient à leur façon les révolutions américaines et françaises et l'introduction concomitante de techniques électorales modernes, inscrites dans la marche vers l'universalisation du suffrage, allait-elle entraîner une rupture avec cet ancien univers ? Voilà la question. On aurait pu, a priori, le penser. La formalisation et l'individualisation de l'expression politique conduisant en effet mécaniquement à l'adoption d'une vision plus arithmétique de la volonté générale, donnant une consistance arithmétique sensible au fait majoritaire dans des termes parfaitement lisibles pour tous. Or, force est de constater que les choses n'ont pas été aussi simples. Les idéaux d'une communauté unie ont ainsi longtemps survécu à l'introduction du droit personnel de vote. L'avènement du citoyen électeur moderne n'a ainsi pas tout de suite introduit de rupture avec la conception d'une légitimation du pouvoir politique fondée sur la reconnaissance unanime des sociétaires. Les conditions matérielles mêmes de l'exercice de ce droit de suffrage ont témoigné de la persistance de cet idéal unanimiste. Dans le cas français, je l'ai déjà signalé dans un cours précédent, ce sont l'interdiction des candidatures et la pratique du vote d'assemblée qui font obstacle à la vision de l'élection comme compétition électorale, affrontement de personnes et d'idées. Il n'y a en outre pas encore d'isoloir pour individualiser spectaculairement le vote. N'oublions pas que le système de l'isoloir ne se répand partout qu'au début du XXe siècle. Même après 1848, l'expression de vote quasi unanime sera fréquente dans les campagnes de l'Hexagone. L'existence d'une bataille électorale étant souvent assimilée à une maladie du corps social. C'est aussi longtemps la même chose au niveau local dans l'Amérique de la Nouvelle-Angleterre. L'esprit des townships y est resté fortement prégnant avec l'éthos égalitaire et communautaire qui le caractérisait. Et si le respect du principe majoritaire était partout affiché, le souci d'unité du groupe restait primordial. La vraie légitimité renvoyait ainsi toujours au fait d'un accord des esprits exprimant une perception communautaire du monde social. Outre-Manche, les rituels électoraux britanniques ont aussi participé d'un même esprit communautaire, au moins jusqu'au second réforme bill de 1866. Et le fait même que la notion technique de majorité ne se soit que très progressivement imposée constitue aussi elle seule un indice de cette persistance du vieux dans le neuf. Un des principaux dictionnaires du milieu du XIXe siècle note encore ainsi que le mot majorité est nouveau en politique. Il n'a pas alors de sens précisément arithmétique d'ailleurs. On l'assimile à la voix générale, l'assentiment du plus grand nombre, et quand il est utilisé, c'est en effet surtout pour l'opposer alors au régime du suffrage censitaire. Rappelons d'ailleurs que le mot était totalement étranger à la langue du XVIIIe siècle et que le terme de « majority », qui avait timidement fait son apparition dans le vocabulaire parlementaire britannique vers les années 1820, n'avait alors pas été acclimaté en France. Dans son édition de 1814, le Dictionnaire d'Académie française ne parle toujours de la majorité dans son sens très ancien, l'âge compétent pour jouir pleinement de ses droits. Et un dictionnaire démocratique de 1848 allait même jusqu'à dire de la majorité qu'il s'agit d'un terme obscur, dangereux et sujet à fausse interprétation. Symétriquement, la notion de minorité est également perçue comme problématique. Elle était ressentie comme une sorte de défi ou d'anomalie dans l'univers démocratique. Elle renvoyait soit à la persistance d'un archaïsme, d'une rémanence du passé dans le présent, soit à l'expression d'une idée neuve qui n'était pas encore rentrée dans les mœurs. Les minorités ne sont alors pas définies comme des positions politiques, et encore moins comme des faits sociaux, mais seulement comme des moments dans une dialectique du développement et de la diffusion des idées. On les conçoit donc structurellement passagères, destinées à s'étioler si elles représentent des idées et des aspirations rétrogrades. On parle de minorité du passé, ou au contraire, à s'élargir jusqu'à exprimer un jour le sentiment de la société tout entière quand il s'agit d'idées nouvelles. On parle alors de minorité de l'avenir. Ce n'est donc aucunement envisager cette notion de minorité dans une perspective de normalité démocratique, dans laquelle des minorités persisteraient durablement dans le jeu politique, correspondant au fait d'une société divisée. Cette vision communautaire rémanente ne s'effacera que très progressivement. Dans le cas français, il faudra ainsi attendre en fait la fin des années 1880 pour que les républicains acceptent de considérer qu'il puisse y avoir des divergences structurelles en leur sein, entre opportunistes et radicaux notamment. Mais cette vision communautaire va surtout voler en éclats avec le développement du capitalisme et la division sociale imprimée par la lutte des classes. Les affrontements politiques vont du même coup changer de nature. Ils ne seront plus seulement liés à des oppositions de personnes ou à la lutte encore inachevée entre l'Ancien Régime et la Révolution. Ces affrontements vont dériver directement du conflit du travail et du capital, conflit en partie exprimé par des forces politiques redoublant directement sa structure. Apparition qui est également concomitante, c'est décisif du suffrage universel. Le sentiment de la division sociale radicale et le suffrage universel sont apparus en même temps en Europe. Voilà la convergence essentielle à prendre en compte. Et les régimes totalitaires vont se présenter dans ce contexte comme la forme politique capable de surmonter ces divisions et de faire retour à l'âge de l'unanimité. J'emploie ici le mot « retour », car cette dimension a effectivement été fortement présente en leur sein. Que ce soit en Union soviétique, avec la célébration des anciennes communautés paysannes, et que l'on pense sur ce point aux célèbres lettres de Marx à Vera Sasulitch, qui sont parmi ses derniers écrits et dans lesquels il voyait dans ces communautés le prototype du communisme du futur, ou en Allemagne, avec le rôle joué par les mythologies païennes dans le nazisme. Retour, mais dépassement aussi, bien sûr, sous les espèces d'une disparition des couches exploiteuses, de disparition de l'ennemi intérieur dans le monde communiste, ou d'un déplacement des termes de ce conflit de classe en Allemagne. L'opposition du capital et du travail était dans ce cas, en Allemagne, supposée ne trouver sa dimension radicalement conflictuelle que rapportée à la finance juive. C'est donc à la perspective de la production d'une société homogène que se rattachait là le retour à l'idée d'unanimité pour fonder la prétention de ces régimes à être mille fois plus démocratiques que les démocraties libérales. La dévolution de la légitimité était donc indissociable, dans ce cas de figure, de la constitution d'un pouvoir société totalement assimilé à cette dernière, de telle sorte que la notion même de légitimité perdait en fait sa consistance, puisqu'il n'y avait plus dans ce cas d'extériorité à régler entre pouvoir et société. C'est ce retour forcé à un monde holiste qui caractérise dans ce cas le totalitarisme comme pathologie de la légitimité. Il fonde ses droits sur une polarisation et une absolutisation de cette légitimité. Plus de fiction à décréter dans ce cas, en effet. Plus de distance à combler entre le tout et une majorité. Plus d'écart auquel il faudrait remédier. Plus de limitation du pouvoir à instituer en conséquence, puisqu'il n'y a plus de tyrannie de la majorité à craindre. La volonté générale, dans ce cas, se superpose en effet parfaitement avec la volonté de tous et de chacun, les hommes et les femmes n'obéissant dorénavant plus qu'à eux-mêmes. Mais c'est dire aussi qu'il n'y a plus de place pour une distanciation critique, plus aucune forme de légitimité sociale extérieure au discours et à l'action du pouvoir. Plus besoin alors de compter les voix. Il suffit d'une certaine façon d'acclamer comme dans le monde ancien. Et l'on sait que Carl Schmitt n'a cessé dans son œuvre de mettre l'accent sur cette dimension de l'acclamation. Et l'on sait aussi que dans le monde soviétique, on a cessé de mettre l'accent sur cette dimension de l'unanimité. On peut dire dans ce cas, avec Louis Dumont, que le totalitarisme, je le cite, résulte de la tentative, dans une société où l'individualisme est enraciné, de le subordonner à la primauté de la société comme totalité. Ou pour le dire autrement, c'est une de ces expressions fameuses, que le totalitarisme est la némésis de la démocratie abstraite. Il est en effet patent dans ce cas que le totalitarisme ne se comprend que dans son lien à la démocratie. Il la renverse en même temps qu'il s'empare de ses traits et leur apporte un prolongement fantastique. C'est l'analyse qu'a souvent faite Claude Lefort, le philosophe qui a le premier proposé de penser le totalitarisme comme une réponse aux questions que véhiculait la démocratie, comme la tentative de résoudre ces paradoxes. Et c'est effectivement dans ces termes que nous avons appréhendé la figure totalitaire de l'incarnation comme pathologie de la représentation, correspondant à la volonté de nier l'impossibilité sociologique et mécanique d'une représentation parfaite. C'est encore dans ces termes que l'on peut penser le totalitarisme comme réponse proclamée au problème de la division sociale et, plus largement, à la désubstantialisation du social dans le monde individualiste moderne, avec le sentiment de déliaison qui en résulte. Et c'est bien toujours dans ces termes qu'il convient de comprendre la réponse forcée qu'il apporte au déficit menaçant de légitimité qui naît de l'écart que l'appréhension arithmétique du peuple fait apparaître avec la représentation d'un corps civique appelé à être un. Le totalitarisme évite le recours à la fiction en prétendant redonner corps et unité à la société. La deuxième forme de pathologie de la légitimité, c'est celle qui consiste dans une redéfinition, une hiérarchisation des légitimités. Il y a eu, nous l'avons vu, des conceptions contrastées et même contradictoires de la forme démocratie plébiscitaire. L'examen des régimes contemporains conduirait d'ailleurs à élargir encore son appréhension. Pensons par exemple à la conceptualisation de la notion de démocratie souveraine dans la Russie de Poutine aujourd'hui, ou à discuter de ses bornes. Pensons à l'énorme littérature d'il y a une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, sur les rapports entre gaullisme et césarisme. Mais les différentes figures possibles de cette forme ont en commun de s'appuyer d'abord sur une hiérarchisation implicite des légitimités. Indépendamment, faut-il immédiatement préciser, de la distinction fonctionnelle des pouvoirs et de leurs attributions. Le premier phénomène à prendre en compte, là, est celui des effets induits par la superposition d'une institution et d'une personne. Une telle superposition a la particularité de permettre une visibilité, une liberté d'interpellation des autres pouvoirs, une capacité de sollicitation de l'opinion, une dimension d'incarnation qui conduisent à dynamiser et à grandir la fonction, à la hausser de ce seul fait au-dessus des autres. Le premier à avoir analysé ce phénomène était Max Weber, lorsqu'il a défendu l'élection du président de la République par le peuple entier en Allemagne. Il a mis en avant le fait que cette élection aurait la particularité d'être une élection qui aurait, je le cite, « quelque chose de plus que les autres élections ». On voit bien que c'est effectivement ce qui se passe. S'y ajoute un facteur arithmétique simple et décisif, le fait que l'onction électorale s'appréhende en chiffres absolus autant qu'en pourcentage. Tout conduit du même coup à une sorte de hiérarchie quantitative implicite. Être l'élu de 10 millions de personnes n'est pas la même chose que de l'être de 100 000, même si la fonctionnalité de la légitimité est équivalente. Tout se passe là comme si la quantité modifiait la qualité, pourrait-on dire, de la légitimité. Et la magie des chiffres est là essentielle. Et nous avons rappelé dans un cours précédent la façon dont cette magie des chiffres était mise en scène par Napoléon III. La démocratie plébiscitaire conduit à exacerber ces effets de différenciation jusqu'à entraîner l'idée d'une sorte de super-légitimité du titulaire du pouvoir exécutif. Super-légitimité qui alimente et justifie en retour des opérations de torsion institutionnelle et de domestication des pouvoirs grâce à la mise en scène permanente de formes d'appel à l'opinion qui conduisent à une redéfinition de fait des institutions. Se créent de la sorte des usages constitutionnels que l'on pourrait dire hors texte, ce que les juristes ont appelé des conventions de la Constitution. Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, disait de façon imagée à leur propos Royer-Collard. Et une constitution, avait répondu en écho de Gaulle un siècle et demi plus tard, c'est un esprit, des institutions, une pratique. On redécouvre aujourd'hui l'importance de ces conventions de constitution. Une constitution n'existe pas en dehors de son application. Qu'une application suppose toujours une interprétation. Qu'une interprétation résulte toujours d'une décision. Et qu'une décision appartient toujours à des organes qui ont un fondement politique et qui essaient de donner une motivation juridique à leur position. On l'a bien vu en France, par exemple, lors de ce qui était la décision fameuse du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel en juillet 1971 sur le droit d'association, où ils ont annulé une décision du gouvernement, c'était, je crois, l'interdiction de la Ligue communiste révolutionnaire à l'époque, et c'était montré que l'institution forçait en quelque sorte une interprétation de la Constitution et que ce forcement a été accepté de fait et qu'il y a dans toute Constitution des façons de la forcer parce que le consentement au fait de forcer la Constitution se définit simplement par le fait qu'il n'y a pas d'opposition qui se manifeste, que le coût de l'opposition serait plus élevé que le coût du silence. Et c'est ce qui se passe, ces opérations de torsion institutionnelle et domestication des pouvoirs sont particulièrement remarquables quand on analyse des régimes plébiscitaires. L'exécutif élu au suffrage universel joue un rôle majeur, activiste pourrait-on dire, dans le modelage de ces constitutions, et plus encore, justement, dans le cadre de ces démocraties plébiscitaires, du fait de la hiérarchisation implicite des légitimités qu'alimente ce type d'élection. Ce rôle de modelage est en outre accentué dans tous les cas où la tête de cet exécutif a la capacité de proposer au pays des modifications constitutionnelles par référendum. Et vous voyez aujourd'hui que dans de très nombreux pays du monde, c'est sur ce point que se lancent par exemple des référendums organisés pour lever la limitation du nombre de mandats d'un président. Et on voit très bien, typiquement dans ce cas, comment l'appel au peuple, qui est présenté comme un instrument démocratique par excellence, devient alors le moteur de l'aggravation du caractère plébiscitaire du régime concerné. Les démocraties plébiscitaires ont pour autre caractéristique pathologique sur le plan institutionnel de tendre à disqualifier la légitimité des contre-pouvoirs issus de la société civile en les réduisant à un double statut. Statut de minorité et donc procéduralement disqualifié comme minorité et statut d'institution privée et donc moralement disqualifié au regard du bien public. C'est de cette façon, au nom d'une légitimité estimée doublement supérieure, la situation majoritaire se liant à la détention d'un pouvoir public, que ces démocraties plébiscitaires ont prétendu détenir les clés d'un pouvoir accru. C'est aujourd'hui la théorie exacte de la démocratie souveraine en Russie. Il n'y a pas de meilleur exemple historique d'une telle prétention ainsi argumentée que les conditions dans lesquelles le Second Empire avait justifié la limitation de la liberté de la presse. Face à l'opposition qui demandait à ce que la presse soit libérée de la tutelle administrative qui existait à l'époque, qui l'entravait sérieusement, le régime avait mis en avant deux arguments. Le premier consistait à justifier la distinction entre liberté individuelle d'expression et liberté publique d'expression. La liberté individuelle d'expression, disait-on, indépendamment de la parole ou du droit de réunion, se rattache au fait de pouvoir imprimer des livres et de mettre sous son nom tout un ensemble de projets, de projections et d'opinions. Alors que la liberté publique d'expression correspond à l'édition d'un journal qui est une institution sociale. Et dans le cas de l'impression d'ouvrage, il ne s'agit que de donner un moyen supplémentaire, un moyen parmi d'autres, à la liberté d'expression individuelle, mais la liberté de la presse, elle, a une dimension directement politique et sociale. Le journalisme, insistait le régime, a une existence comme être collectif. Il constitue une puissance sociale développée. Ces règles de fonctionnement, disait un des ténors du régime, devraient du même coup être examinées à l'aune des normes de légitimation du monde public politique. Et le problème, disait à partir de là les bonapartistes, est que la presse est une puissance politique, mais elle n'a aucun caractère représentatif et qu'elle n'a donc pour cela aucune légitimité démocratique. Le principal caractère de l'influence de la presse, disait typiquement Granier de Cassagnac, c'est de manquer totalement de délégation. À l'inverse de tous les pouvoirs réguliers, dont le moindre a sa racine et sa délégation dans la loi constitutionnelle, la presse est un pouvoir spontané, volontaire, ne relevant que de lui-même, de ses intérêts, de ses caprices ou de ses ambitions. Le nombre des pouvoirs publics, poursuivait-il, est limité. Le nombre des journaux ne l'est pas. Les attributions de ces pouvoirs publics sont définies. Les attributions de la presse n'ont ni règles ni mesures. La presse, selon une autre de ses expressions particulièrement frappante, était ainsi la rivale des pouvoirs publics, alors même qu'elle n'avait aucune contrainte de représentativité, aucune contrainte, était soumise à aucune épreuve de légitimité. Et les ténors du régime concluaient, si la presse n'était pas contenue, elle serait donc une usurpation sur les pouvoirs publics. Sans avoir le droit d'élire, elle cherche à diriger les élections. Sans avoir le droit de figurer dans les corps délibérants, elle cherche à influencer les délibérations. Sans avoir le droit de siéger dans les conseils du souverain, elle cherche à provoquer ou à prévenir les actes du gouvernement. Sans avoir reçu ni d'un département, ni d'un arrondissement, ni d'une commune, ni d'un hameau, une délégation quelconque, elle cherche à gouverner la nation. En un mot, la presse cherche à substituer son action à l'action de tous les pouvoirs établis et légaux sans être en réalité investi d'un pouvoir proprement dit. Les journaux étaient ainsi accusés d'être des petits États au milieu de l'État, d'être des institutions privées qui jouaient un rôle politique. C'était des puissances publiques en main particulière. Le journaliste, insistait-on, n'était élu par personne alors qu'il incarnait un véritable pouvoir social. Et les partisans du régime allaient ainsi jusqu'à dire, pour justifier le contrôle exercé sur la presse, qu'un journal pouvait être considéré comme une puissance aristocratique dans un monde démocratique. Et les journaux qui ne représentent et ne seraient représentés que des intérêts individuels doivent en fait être subordonnés aux intérêts généraux. Émile Ollivier, une des grandes figures du régime, conclura « Pour être député, il faut être l'élu de ses électeurs, alors que le journaliste s'investit lui-même de son ministère redoutable. » Et à défaut de concevoir une élection des journalistes, il était donc légitime de contrôler leur activité et de leur opposer la parole de l'État, seul supposé exprimer adéquatement la volonté générale, puisque issue du sein de cette volonté générale. Et donc, la liberté individuelle de la presse, la liberté individuelle d'expression, ne devait pas être confondue avec la liberté publique, qui était celle correspondant au rôle de la presse. Et on voit bien dans ce cas que ce raisonnement montre que c'est la prétention à faire de l'élection la seule source de légitimité pour intervenir dans la sphère publique qui est en jeu. Ce raisonnement, en effet, conduit à dénier toute autonomie à la société civile politique et à considérer qu'entre le monde privé des libertés individuelles et la sphère politique, il n'y a qu'un vide. Mais c'était aussi oublier la dimension de fiction attachée aux faits majoritaires. Et l'hypostasie de ce fait majoritaire était donc l'autre versant des pathologies de la légitimité caractérisant les démocraties plébiscitaires. Une autre pathologie de la légitimité consiste en effet en étendre indûment le champ. Expliquons-le. L'élection donne le droit d'occuper une position déterminée. Mais ce droit qui confère ce qu'on peut appeler une légitimité d'autorisation ou une légitimité d'établissement, doit être distinguée d'une légitimité d'exercice. La légitimité d'autorisation, elle est de l'ordre d'une qualité qui est reconnue comme une propriété. C'est le titulaire d'un pouvoir qui la possède comme un acquis et on ne peut donc en aucun cas lui contester pendant la durée du mandat considéré. On pourrait dire de façon imagée que la légitimité d'établissement ou la légitimité d'autorisation donne un permis de gouverner. Mais la seconde, la légitimité d'exercice, est d'un autre ordre. Elle résulte de la force du soutien dont dispose un gouvernement dans l'opinion. Elle est donc variable, jamais acquise, contrairement à la précédente, toujours à consolider. Elle est liée à la qualité perçue de l'action publique. Elle se conçoit, elle se conquiert, donc au quotidien, à travers des épreuves de légitimité, d'un autre ordre que la procédure électorale. Et ces épreuves de légitimité la constituent, du coup, cette légitimité en une institution invisible, au sens où la confiance et l'autorité sont des institutions invisibles qui se définissent par les types de liens qui se tissent entre une institution et des groupes. Et ces épreuves de légitimité, de légitimation, sont de l'ordre d'une interaction continue, donc, entre le pouvoir et la société. Le propre de la démocratie plébiscitaire est de tendre à replier cette légitimité d'exercice sur une pratique du face-à-face qui ne se lie aucunement à la mise en œuvre d'institutions de surveillance, de contrôle, d'évaluation. Elle entend ainsi prolonger et revivifier en permanence la légitimité d'autorisation, voire les voyages de Napoléon III en province, compris comme des plébiscites continus, et non pas de doubler cette légitimité d'autorisation d'une soumission à d'autres épreuves pour qualifier la légitimité d'exercice. Le propre de la démocratie plébiscitaire, compris dans cette perspective, est d'unifier les formes et les registres de la légitimation d'un pouvoir, de les concentrer sur le seul moment d'autorisation. On peut parler en ce sens d'un super-électoralisme ou d'une réduction électorale radicale de l'idée démocratique. Réduction hautement problématique, car elle tend à déjuridiciser, c'est le point décisif, l'exercice courant du pouvoir. Le problème est la double. Il réside d'abord dans le fait que la fiction démocratique est parfaitement accordée à la légitimité d'autorisation, puisqu'il ne s'agit dans ce cas que de déterminer une procédure technique, simple et acceptable par tous, de nomination d'un pouvoir. Tandis que la légitimité d'exercice, en revanche, elle implique de déterminer des épreuves et de contrôles qui sont plus exigeantes et qui sont plus continues, ainsi que concurrentes et complémentaires de cette expression majoritaire. Et le problème est en second lieu que cette concentration sur l'autorisation dévitalise les autres pouvoirs, en même temps qu'elle transforme la nature des rapports entre majorité et opposition et qu'elle dévitalise ce rapport entre majorité et opposition de ce qui la constitue, le fait que l'opposition est le tribunal permanent de la majorité. La prééminence accordée à la légitimité d'autorisation d'établissement conduit en effet mécaniquement à déqualifier démocratiquement ces dernières, du fait même de l'exacerbation d'une légitimité d'autorisation fondée sur le fait majoritaire. Il en résulte une propension à dénier à l'opposition la capacité à exprimer des formes d'intérêt général. Et la minorité tendra, du même coup, à être accusée de n'être que l'expression d'intérêts particuliers, parce que minoritaire, et pour avoir justifié, de cette façon, la réduction de son action au nom des droits supérieurs, donc plus démocratiques, de la majorité à mener son action sans l'avoir entravée par une minorité, sans l'avoir questionnée. Le problème est que cette façon de concevoir les choses n'est maintenant plus limitée au monde de la démocratie plébiscitaire. C'est un raisonnement que l'on voit souvent s'étendre. Elle s'est partout infiltrée, comme en avait fameusement témoigné au début des années 1980, l'apostrophe d'un membre de la nouvelle majorité à ses adversaires, vous avez juridiquement tort, parce que vous êtes politiquement minoritaire. Il n'y a pas de meilleure formulation du type de pathologie de la légitimité que nous venons de considérer. Donc je m'interromps quelques minutes avant le deuxième courant.